Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of. In a lullaby.
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Je suis ravie de vous retrouver sur l'antenne de Fréquence 7 parce qu'on y est bien. Aujourd'hui, une émission assez originale parce que nous allons découvrir les contes de la mer Caspienne. Je suis sûre que vous ne connaissez pas ce genre de contes. Les pays de la mer Caspienne ont une unité géographique et historique, même si leurs frontières ont été très mouvantes. Et les peuples qui ont vécu dans ces régions s'y sont installés tardivement parce que la plupart d'entre eux étaient nomades. Et puis d'autres ont été déplacés par les vicissitudes de la vie politique. Aussi, cette région du monde se caractérise par sa diversité culturelle. C'est des centaines de peuples et de langues. Mais par-delà l'extrême diversité linguistique, les contes de la mer Caspienne ont été transmis par différentes traditions orales et ils présentent de très nombreuses ressemblances. Ils ont les mêmes motifs et les mêmes héros parfois. La mer Caspienne est entourée de 5 pays, l'Azerbaïdjan, la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan et l'Iran. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un conte kazakh. Il s'appelle Jiranché le Sage. Il y a bien longtemps, un sage vivait dans la steppe. Il s'appelait Jiranché Tchétchène. Son esprit était aussi profond et infini que l'océan. Les paroles s'envolaient de sa bouche, mélodieuses comme le chant du rossignol. Mais malgré toutes ses vertus, Jiranché était pauvre, comme personne d'autre dans la steppe. La cabane où il vivait était si misérable que lorsqu'il s'allongeait, ses jambes dépassaient du seuil. Et quand il faisait mauvais temps, le vent et la pluie s'y engouffraient par de nombreux trous et fissures. Un jour que Jiranché chevauchait dans la steppe avec ses compagnons, le soir tomba. Les cavaliers pressèrent leurs montures pour parvenir avant la nuit à un gîte. Mais soudain, un large fleuve leur barra la route. Le village était sur l'autre rive, et sur celle où ils se trouvaient, quelques femmes ramassaient du fumier séché dans des sacs. Les cavaliers s'approchèrent d'elles, les saluèrent courtoisement, puis ils leur demandèrent comment faire pour traverser le fleuve. Une jeune fille se détacha du groupe. Elle s'appelait Karachash. Elle portait une vieille robe, toute rapiécée. Et pourtant, sa beauté était resplendissante. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Sa bouche avait la forme d'un croissant de lune. Son corps était aussi souple et élégant qu'un roseau. Elle répondit, « Il y a deux guets. Celui de gauche est proche, et pourtant loin. Celui de droite est loin, et pourtant proche. » Et elle leur indiqua de la main les deux chemins qui menaient au guet. Seul Jiranché comprit les paroles de la jeune fille et prit le chemin de droite. Et quelque temps plus tard, il aperçut le guet. Le fond de la rivière était sablonneux à cet endroit et l'eau peu profonde. Il traversa le fleuve sans difficulté et parvint rapidement au village d'en face. Ses compagnons, eux, avaient choisi le guet le plus proche. Et ils se le reprochèrent très vite. Ils n'avaient pas encore atteint le milieu du fleuve, que leurs chevaux s'enlisèrent profondément dans la vase. Ils durent descendre de leur monture et continuer à pied par un endroit très profond. En tenant les chevaux par la bride, ils se traînèrent avec peine jusqu'à la rive. Il faisait déjà nuit quand, mouillés et transis, ils entrèrent dans le village. Jiranché avait arrêté son cheval près de la tente la plus éloignée. C'était la plus pauvre, et il avait tout de suite deviné que c'était celle des parents de la belle jeune fille qui lui avait indiqué le guet. Il attendit ses compagnons, et ce n'est que lorsque tous eurent mis pied à terre que la mère de Karachash vint les accueillir et leur offrir l'hospitalité. Ils la remercièrent et entrèrent dans la tente. L'intérieur était aussi pauvre que l'extérieur. Comme elle n'avait pas de tapis, La maîtresse de maison glissa sous les pieds des invités des peaux séchées, le poil tourné vers le dessus. Au bout d'un moment, Karachach entra à son tour dans la pièce, avec un sac plein de fumier séché qui servait de combustible. On était au printemps, et juste avant le coucher du soleil, il s'était mis à pleuvoir très fort. Toutes les femmes étaient rentrées de la steppe avec leur fumier mouillé et leur famille, ce soir-là, devrait aller se coucher sans manger. Seule Karachach avait rapporté du fumier sec et elle alluma donc du feu. Ses invités se réchauffèrent et ils firent sécher leurs vêtements. « Comment as-tu fait pour protéger ton chargement de la pluie ?» lui demandèrent les nouveaux venus. La jeune fille répondit que lorsqu'il s'était mis à pleuvoir, elle s'était couchée sur le sac de fumier pour le protéger de tout son corps. Sa robe avait été mouillée, mais avait vite séché devant le feu. C'était elle qui l'allumait chaque soir avant que son père ne rentre. Il était berger et revenait tard, affamé et souvent trempé. Ses compagnes, elles, durant l'averse, s'étaient abritées sous les sacs. Leurs vêtements et le fumier avaient été mouillés tout à la fois. Les invités s'émerveillèrent de l'intelligence de la jeune fille. Puis ils lui demandèrent ce qu'il mangerait au dîner. Karachach leur répondit « Mon père est pauvre, mais il sait recevoir ses hôtes. Quand il reviendra avec le troupeau du maître, s'il le peut, il égorgera un mouton pour vous. Et s'il ne peut pas, il égorgera deux brebis. » Jiranché mis à part, personne ne comprit ses paroles et on pensa qu'elle plaisantait. Sur ce, le père de Karachach arriva. Voyant qu'il y avait des étrangers chez lui, il courut chez son maître et lui demanda un mouton pour l'offrir en dîner à ses invités inattendus. Le maître le chassa sans rien lui donner. Alors le berger égorgea sa seule brebis qui devait bientôt mettre bas un agneau, et il prépara un plat délicieux pour les jeunes gens qui l'abritaient. Les invités comprirent alors le sens des paroles de Karachach. Pendant le dîner, Jiranché était assis en face de la jeune fille. Charmé par sa beauté mais surtout par son intelligence, il plaça une main contre son cœur, tout en la regardant, pour lui faire comprendre qu'il brûlait d'amour pour elle. Karachach ne le quittait pas des yeux et remarqua donc son geste. À son tour, elle toucha ses yeux du bout de ses doigts pour dire au jeune homme qu'elle avait compris ses sentiments. Alors Jiranché passa la main dans ses cheveux, lui demandant ainsi si son père n'allait pas lui réclamer autant de bêtes qu'il avait de cheveux sur la tête lorsqu'il la demanderait en mariage. Karachach passa la main sur les poils de la peau qui étaient étendus sous ses pieds. Elle lui répondait que son père ne la donnerait pas même pour autant de bêtes qu'il y avait de poils sur cette peau de mouton. Jiranché, se souvenant de sa pauvreté, baissa la tête. La jeune fille eut pitié de lui. Elle retourna un petit bout de la peau de mouton et toucha des doigts le cuir nu. Son père la donnerait pour rien à un fiancé qu'il trouverait digne d'elle. Le berger, son père, avait observé tout le temps du repas le dialogue silencieux des deux jeunes gens. Il comprit qu'ils s'aimaient et que Jiranché était aussi intelligent que sa fille. Il accepta avec joie de donner en mariage sa fille au jeune homme. 3 jours plus tard, Jiranché ramenait sa femme dans son village natal. Bientôt, la gloire de la belle et sage Karachach fit le tour de la steppe et parvint au palais du Khan, le roi. À force d'entendre les discours élogieux de ses vizirs, répétant à l'envi qu'il n'existait pas de femme plus belle et plus intelligente que Karachach, le Khan devint si jaloux du pauvre Jiranché qu'il décida de lui prendre sa femme. Alors il envoya l'un de ses émissaires à la cabane de Jiranché, qui ordonna à la jeune femme de se présenter au palais sans délai. Impossible de refuser. Les jeunes époux se mirent en route. Aussitôt que le Khan vit Karachach, il s'éprit d'elle et décida d'en faire sa femme coûte que coûte. Pour commencer, il obligea Jiranché à rester à son service. Le jour, Jiranché servait dans le palais éblouissant du Khan et ne rentrait que le soir épuisé. Mais là, savourant sa liberté, il posait sa tête sur les genoux de sa femme bien-aimée et lui disait « Quel bonheur d'être ici. Notre cabane est plus vaste que les salles du palais. » Et tout en parlant, il étendait ses jambes qui alors dépassaient du seuil. Le temps passait et le Khan ne cessait de penser à la meilleure façon de se débarrasser de Jiranché pour posséder Karachach. Il donnait sans relâche au jeune homme des missions de plus en plus dangereuses. Mais Giranché les accomplissait toujours vite et bien, et le Khan ne trouvait pas de prétexte pour le faire mettre à mort. Un jour que le Khan traversait la steppe avec sa suite, le vent se leva, et les fleurs de chardon bleu qui avaient fleuri s'envolèrent de tous côtés. Le Khan dit alors à Giranché : Pourchasse une de ces fleurs et demande-lui où elle va et d'où elle vient. Attention, si tu n'as pas la réponse, je te ferai couper la tête. Giranché pourchassa les fleurs bleues, en rattrapa une, la transperça de sa lance, et après être resté un moment immobile et silencieux, il revint auprès de son maître. Le Khan lui demanda alors : Que t'a dit la fleur ? Giranché répondit : Ô grand Khan, la fleur de chardon t'envoie ses respects et te fait dire où je vais et d'où je viens ? C'est le vent qui le sait. Où je m'arrêterai ? C'est le ravin qui le sait, cela va de soi. Ou tu es idiot pour me poser de telles questions, ou c'est ton Khan qui en est un pour t'envoyer poser de telles questions. Le Khan comprit le message, mais ne répondit rien à Giranché et ravala sa rage. Une autre fois, le Khan ordonna à Giranché sous peine de mort de se présenter à lui quand il ne ferait ni nuit, ni jour, ni à pied, ni à cheval, ni dehors, ni dedans. D'abord Giranché ne sut que faire, puis il prit conseil de Karachach, et à tous les deux, ils trouvèrent comment résoudre la difficulté. Giranché se présenta au Khan à l'aube, ni jour, ni nuit, monté sur une chèvre, ni à pied, ni à cheval, et il s'arrêta sous la porte cochère. Il n'était ni dehors, ni dedans. Une fois encore, les époux avaient déjoué la ruse du Khan. Il en inventa immédiatement une nouvelle. Au début de l'automne, le Khan convoqua Giranché chez lui et lui confia 40 moutons en lui disant « Prends ces moutons, tu dois les garder tout l'hiver, mais au printemps, s'ils n'ont pas mis bas des agneaux, je te ferai couper la tête. » Giranché rentra chez lui désespéré, poussant devant lui son troupeau de moutons. « Qu'as-tu donc, mon mari ?» lui demanda Karachach. « Pourquoi es-tu si triste ?» Giranché lui fit part de l'ordre complètement absurde du Khan. « Ah, mon aimé !» s'écria Karachach. « Pourquoi t'en faire pour de telles bêtises ? Égorge tous les moutons, nous les mangerons cet hiver. Et au printemps, tout s'arrangera pour le mieux. » Giranché suivit les conseils de sa femme. Le printemps arriva et voilà qu'un jour, un émissaire du Khan vint frapper à la porte de leur cabane et annonça que le Khan lui-même le suivait pour savoir si ses moutons avaient mis bas des beaux agneaux. Giranché se lamenta et pensa que cette fois, il n'échapperait pas à la mort. Mais Karachach lui dit : « Ne te fais pas de soucis, Giranché le sage, va te cacher dans la steppe. Et ne te montre surtout pas jusqu'à ce soir. Je vais moi-même recevoir le Khan. Tout ira pour le mieux. Va !» Giranché obéit à sa femme et partit dans la steppe. Karachach resta dans la cabane. Bientôt, elle entendit le galop d'un cheval et une voix menaçante. « Hola ! Êtes-vous là ? Montrez-vous » Karachach avait reconnu le Khan. Elle sortit de la cabane et s'inclina très bas. « Où est ton mari ?» « Pourquoi ne vient-il pas m'accueillir ?» lui demanda le Khan d'un ton furieux. Karachach lui répondit respectueusement « Ô Khan très puissant, sois clément envers mon malheureux mari. Il vient de sortir de la maison pour t'être agréable. Vois-tu, nous sommes pauvres, alors quand il a entendu que tu nous rendais visite, il a été pris d'une grande honte. Comme il veut t'honorer, il est parti en courant dans la steppe pour traire sa petite caille et de son lait te préparer du koumis. » Entre dans notre hutte, grand Khan. Mon mari va bientôt revenir. Il saura te régaler comme tu le mérites. » Le Khan enrageait. « Tu te moques de moi, femme » s'écria-t-il. « A-t-on jamais vu que l'on pouvait traire des cailles ?»« De quoi t'étonnes-tu, Khan ?» demanda Karachach d'une voix naïve. « Tu le sais, nous n'habitons pas un pays ordinaire. Ici, nos maîtres savent obtenir des miracles. » Tes 40 moutons ne s'apprêtent-ils pas à mettre bas des agneaux d'un jour à l'autre ? Le Khan comprit qu'il était tombé dans le piège en posant sa question. Il avait perdu la face et ne savait plus que faire, tant il avait honte. Il tourna bride et retourna chez lui au galop. Depuis ce jour, il laissa Giranché et Karachach en paix, et ils vécurent ensemble jusqu'à leur mort. Giranché était à la chasse lorsque sa vieille Karachach s'éteignit. Selon la coutume de ce temps, ses compagnons vinrent à sa rencontre pour lui annoncer la triste nouvelle. Ils aperçurent Giranché de loin. Il chevauchait au pas et chantait une chanson joyeuse. À la selle de son cheval pendaient trois cygnes qu'il venait de tuer. Ses compagnons l'invitèrent à s'asseoir près d'eux. Mais ils ne pouvaient se décider à lui dire que Karachach n'était plus. Ils essayèrent de lui faire comprendre doucement. Ils lui dirent « Ta sagesse est connue loin à la ronde, Giranché, alors dis-nous, que manque-t-il à un homme quand meurt son père ?» Giranché garda un moment le silence et lui dit « Quand son père meurt, l'homme sent les murs de la forteresse qui le protège des malheurs s'écrouler. » « Que manque-t-il à un homme quand sa mère meurt ?» Giranché répondit « Quand sa mère meurt, avec elle se tarit la source de l'amour qu'il a abreuvé. » « Et que perd-il avec la mort d'un frère ?» Giranché répondit « Quand un frère meurt, tombe alors l'un de ses piliers de soutien. » « Dis-nous pour finir, sage Giranché, qu'éprouve un homme à la mort de sa femme bien-aimée ?»«
Ma Karachach est morte !» s'écria Giranché, comprenant tout à coup pourquoi il lui avait posé toutes ces questions. Il voulut immédiatement voir le corps de sa bien-aimée et se leva en larmes. Il s'appuya de toutes ses forces sur la poignée de son grand fouet. Si lourde était sa peine que la poignée se cassa sous lui et Giranché s'écroula, mort, à terre.
What a wonderful world.
N'est-ce pas une histoire d'amour magnifique? Vous ne connaissiez pas de conte kazakh, je pense bien. Eh bien maintenant, vous pourrez dire que vous connaissez un conte de la mer Caspienne. Il sera temps pour vous de le raconter à nouveau. Comme il y a plein d'aventures, je suis sûre que vous avez besoin de le réentendre. Alors vous pouvez le réentendre le mercredi à 16h, le samedi à 16h aussi. On fait un grand merci à Sylvain, à la technique, qui est indispensable dans nos émissions, parce que nous, on vient faire des émissions, nous les bénévoles, mais Sylvain, lui, est derrière la console pour rattraper toutes nos bêtises. Merci Sylvain, grand merci. Allez, il est bientôt temps de nous retrouver le mercredi, le samedi, et d'ici nos retrouvailles, racontez-vous des histoires !